Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la CAQ a son ministre des Nordiques, Éric Girard, qui détient aussi le portefeuille des finances. Mais notre chroniqueur historien Dave Noël rappelle aujourd'hui qu'à l'ère Taschereau, il y a eu un ministre des Canadiens de Montréal. Et oui, c'était en plus le grand-père de deux parlementaires contemporaines. Une époque, les années 20, qui fut en plus bouleversée par une terrible pandémie, celle de la grippe dite espagnole. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
Et bonjour Geneviève Lajoie.
Bonjour Antoine.
Geneviève remplace encore cette semaine Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Comme à chaque jour ou presque, il y a eu une nouvelle annonce COVID il y a quelques minutes. C'est la sous-ministre O'Patterney, Lucie O'Patterney, et le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui ont fait cette annonce. Alors explique-nous, Geneviève.
On a eu des nouvelles du Paxlovid. J'espère que je le prononce bien, qui est un médicament que le gouvernement du Canada a d'abord, Santé Canada, donné son sceau pour l'utilisation du Paxlovid, qui est un médicament anti-COVID de Pfizer. Et c'est un médicament, on doit le prendre à l'intérieur des 5 jours suivant les premiers symptômes de la maladie. Donc, il faut que ça soit assez rapide, OK? Donc, il faut savoir ça, c'est ça qu'elle nous a expliqué. Mais ça va être réservé aux immunosupprimés. Pourquoi? Parce que la quantité est très limitée. On parle de 6300 médicaments en janvier que le Québec va recevoir. Même chose à peu près en février. À partir de mars, on va en recevoir plus. Mais donc, pour le moment, c'est limité. Donc, c'est pour cette raison que ça va être réservé aux personnes immunosupprimées qui, malgré le vaccin, ont du mal à développer une immunité vraiment très forte contre la maladie. C'est sûr qu'il va falloir que ça soit prescrit par un médecin. Donc, on verra comment ça va se dérouler effectivement sur le terrain. Là, c'est pas tout le temps facile d'avoir un rendez-vous demain matin chez le médecin. Mais en théorie, ce que la docteure O'Patterney disait, c'est que les personnes immunosupprimées, généralement, sont beaucoup mieux suivies que les autres patients. Et donc, ont accès plus facilement à leur médecin. Là, parce qu'il faut que ça se fasse rapidement. Et c'est un médicament qui permettrait de diminuer de 89 % les risques de complications graves ou de décès chez les personnes qui contractent la COVID. Donc, c'est pas rien, là. Mais elle a précisé que là, il n'y avait pas de distinction, là, à savoir est-ce que ça va être réservé aux gens davantage qui sont non vaccinés ou vaccinés.
Ce qui est certain, c'est que c'est une goutte d'eau dans l'océan de la COVID parce que c'est pas des doses massives, disons. C'est des doses homéopathiques, comme le disait Benoît Dutrisac ce midi.
Exactement. Donc, c'est pour ça que le gouvernement continue de marteler que la solution passe par la vaccination. Mm-hmm. Donc, parce que c'est très peu, effectivement, sur le nombre de Québécois en tout. On est 8,5 millions, là, 6 300 doses. Là, ça ne fera pas grand-chose sur le système de santé. Et donc, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a répété là, que le système de santé est à bout et faut vraiment pas commencer à déconfiner, visiblement, parce que les collègues ont essayé de savoir, justement, quelles seront les prochaines étapes de déconfinement.
Mm-hmm.
Mais on n'en a eu aucun aperçu aujourd'hui, absolument rien, parce que on se rappelle hein, quand même, Antoine, on oublie, là, bon, on sait que le couvre-feu vient d'être levé, que l'école vient de recommencer, mais je te rappelle qu'on peut toujours pas aller souper chez notre famille, chez nos voisins, on est pris dans notre bulle.
C'est ça.
C'est pas rien, là. C'est une mesure très, très importante. Et qui change la vie des gens. Là.
On aime bien notre bulle, mais des fois, on aimerait en sortir.
Ben oui, puis on aimerait ça aller au restaurant aussi. Ouais. Les restaurants, toujours rien, toujours aucune information aujourd'hui sur les restaurants qui ont été fermés à partir du 31 décembre. Il n'y a toujours pas de plan pour le retour des restaurants. Pas non plus pour les gyms, on en parlait un petit peu hier.
Ouais.
Le ministre a d'ailleurs fait référence à ça, les gyms, les restaurants. Il a dit, regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, là, en regardant ce qui se passe dans les hôpitaux, où ça va pas bien, la situation est encore critique. On peut pas regarder pour le moment un plan de déconfinement là, des restaurants et des gyms.
C'est un discours un peu écartelé que tient le gouvernement. Tu sais, d'une part, on souligne qu'il y a de l'espoir, qu'on va dépasser le pic des hospitalisations, des cas. Que, tu sais, il essaie de montrer qu'il y a des choses qui vont mieux aller. Il lève certaines contraintes qui étaient... de toute manière, dont l'efficacité était peu démontrée. Il essaie de montrer qu'il fait des efforts, mais en même temps, il nous fait comprendre qu'on est encore dans le cœur et même l'œil de la tempête. Ça fait comme un discours, je dirais, écartelé. C'est entre deux sentiments. C'est-à-dire que ça va mieux, puis dans le fond, on est encore dans la merde. Oh, pardon.
Puis non seulement ça fait un discours écartelé, mais les Québécois, eux, sont pas rendus au même point où ils étaient rendus dans les premières vagues. Hein? Et donc, ils sont beaucoup moins à l'écoute. Les gens, avec raison, sont tannés. Hein? Mmh. Les gens peuvent plus.
Le ministre l'a répété plusieurs fois qu'il comprenait que les gens soient tannés. Mais oui, aucune annonce de déconfinement, comme tu dis.
Non, pas, puis même pas rien du tout, du tout. Donc, pour nous donner un peu d'espoir pour sortir de cette cinquième vague, là, encore une fois, c'est sûr que quand on est au Québec, on regarde un match à la télévision de soccer en Europe ou de football aux États-Unis, ils sont 80 000 entassés dans un stade pas de masque, ça fait réfléchir quand même. Et c'est certain que des discours comme celui qu'on a entendu hier, justement, du chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, et de sa nouvelle candidate, Mme Casabonne, c'est sûr que ça risque de rejoindre de plus en plus de gens.
Oui. Quant à Dominique Anglade, elle est venue au Parlement ce matin. Je pense que c'est sa première conférence de presse ici dans le hall du Parlement. Là. Donc, la chef libérale qui a martelé son message, le même message, c'est-à-dire que François Legault a perdu le contrôle. Elle a ajouté, vu qu'il fonctionne par fermeture, il nous mène dans une grande noirceur, a-t-elle dit.
Moi, je veux dire que j'ai un grand respect pour la fonction de politicien, de député. Jamais je vais dire qu'un élu qui se rend disponible pour répondre aux questions des journalistes, c'est pas une bonne chose, là.
Mais on avait l'impression que c'était un peu inutile comme conférence de presse ce matin.
C'est sûr que là, on est en campagne préélectorale malgré tout. Hein. Il y a une élection dans quelques mois.
Oui.
Et là, il va falloir, j'ai l'impression, pour les partis d'opposition, de se positionner davantage comme des alternatives. Les gens, maintenant, veulent plus entendre seulement critiquer, veulent plus voir les oppositions seulement comme des critiques, mais comme des alternatives au gouvernement. Et donc, ils doivent proposer des choses concrètement. Le gouvernement Anglade ferait quoi? Le gouvernement de Québec solidaire ferait quoi? Mm-hmm. Je pense qu'on est rendu là, notamment parce qu'on est à quelques mois des élections. Il va falloir que les partis d'opposition se rangent dans cette optique-là aussi, là, parce que des sorties comme ce matin de Mme Anglade, c'est pas la première fois qu'elle dit ce genre de choses. Ça fait des mois et des mois qu'elle dit la même chose. Une enquête publique, ça prend une enquête publique. Maintenant, on veut savoir si elle a, c'est ça, les tests, ça prend des tests rapides. Maintenant, on veut savoir si elle a l'étoffe d'une première ministre et comment elle gérerait cette crise-là maintenant. Pendant 3 ans, les partis d'opposition se sont comme réfugiés derrière la pandémie, derrière le fait qu'ils n'avaient pas eux-mêmes les données de santé publique pour dire « Bon, ben là, moi, je peux pas vous dire comment moi j'agirais puisque je n'ai pas les données, je ne sais pas. » Mais là, on s'en va vers les élections, on est en ligne droite vers les élections. Les gens veulent savoir qu'est-ce qu'eux feraient.
Qu'est-ce qu'eux feraient, oui. Mais Dominique Anglade a dit « Si j'avais été là, et là, je la cite au texte, on ne se serait pas retrouvé avec des taux de mortalité aussi graves. » Et là, il y a un journaliste qui lui a posé la question suivante, à laquelle Mme Anglade a répondu, puis on écoute cette réponse.
Le gouvernement libéral, il y aurait eu moins de morts durant la pandémie. C'est ce que vous dites?
Ce que je dis, c'est que clairement, sous un gouvernement Anglade, on ne se serait pas retrouvé dans une situation où on a des mesures restrictives fortes, on a un taux de vaccination élevé, mais en même temps des résultats aussi catastrophiques. Ça, c'est la perte de contrôle de François Legault. Ça, c'est le fait qu'il n'a pas... Il n'a pas écouté toutes les recommandations qui ont été faites. On a demandé une enquête publique. On a demandé d'avoir des tests rapides. On a demandé de la ventilation dans les écoles. On a demandé d'avoir les débats sur les mesures. On a demandé d'avoir des avis publics sur les décisions qui étaient prises. Jamais il a ouvert la porte. Il a fermé la porte. Et c'est ça qui nous plonge dans la noirceur actuellement.
Donc, il y aurait eu moins de morts si les libéraux avaient été au pouvoir. C'est son affirmation.
Oui, puis elle dit aussi on ne se serait pas retrouvé dans une situation où on ait des mesures restrictives fortes. Donc, elle considère que les mesures qu'il y a actuellement sont trop sévères. Donc, c'est ça. C'est le discours qui est probablement en train de changer aussi. On la verra sûrement de plus en plus, évidemment, puisque là, l'Assemblée nationale a recommencé là, cette semaine ses travaux en commission parlementaire. Donc, on revoit députés et ministres se promener dans les corridors de l'Assemblée nationale. Maintenant, on verra si tout le monde reviendra en présence comme prévu au mois de février. Pour siéger et pour les périodes de questions.
Il y avait un article intéressant, Geneviève, dans Le Devoir ce matin par Isabelle Porter. C'était une sorte de compte-rendu de la biographie d'Éric Duhaime, du chef conservateur, là, qui vient d'être publié par Frédéric Tétu, le professeur de philosophie, et aussi une entrevue avec Duhaime qui, semble-t-il, veut se recentrer.
Ben oui! C'est drôle ça, hein? On voit la même chose qui se produit à gauche, c'est-à-dire Québec solidaire qui veut se recentrer pour aller chercher davantage d'électeurs. Et maintenant, on voit la même chose du côté droit, donc le Parti conservateur qui veut lui aussi se recentrer un peu pour aller chercher éventuellement plus d'adhérents. Et effectivement, on voit avec la candidate qui l'a présentée hier dans Marie-Victorin, en vue de l'élection partielle dans Marie-Victorin, on voit qu'il va miser justement sur les mesures sanitaires. Mmh. C'est drôle, hein, parce que la CAQ a pu compter sur la pandémie pour rester aussi longtemps au sommet dans les intentions de vote. Mais là, on se rend compte que c'est ce qui pourrait contribuer à le faire chuter là, finalement dans les intentions de vote, cette pandémie qui perdure. Là, parce que donc la gestion qu'ils vont faire là va être très importante sur le résultat des élections. Là. Ça risque de peser fort dans la balance. Donc, c'est ça, ça leur a servi beaucoup. Là, hein? Les partis d'opposition n'étaient tout simplement pas là. On les voyait pas, on les entendait peu. La population ne voulait que savoir qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait déconfiner, qu'est-ce qui allait confiner. Donc, ça a servi la CAQ. Mais là, on se rend compte que, la pandémie qui perdure, ça pourrait aussi desservir la CAQ en vue des élections. Puis
Juste pour revenir à Éric Duhaime, il dit dans l'entrevue qu'il a donnée au Devoir, on ratisse beaucoup plus large que la droite traditionnelle. Hein? Il dit même, vous allez voir, on va même avoir des candidats et candidates issus de la mouvance solidaire. C'est surprenant. Quoique Anne Cazabonne, elle était pas loin de là, elle était au Parti québécois et à Option nationale. Mais en même temps, dans le même article, il dit, dans la même entrevue, il dit « Je me suis engagé en politique active pour combattre les idées de Québec solidaire parce qu'Amir Kadir était le politicien le plus populaire. » C'est difficile à réconcilier tout ça.
Oui, mais en même temps, le Québec solidaire a quand même changé depuis Amir Kadir. Hein?
Ouais.
Avec Gabriel Nadeau-Dubois, quand même, on voit un recentrage. C'est autre chose, là. Amir Kadir, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, hein, tu te souviens de lui dans ses points de presse.
Oui.
Toujours très intéressant, un avis sur tout, mais facilement, il partait à un moment donné, sur le capitalisme.
La décroissance.
Oui, exactement. On voit beaucoup moins ça avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui est quelqu'un de un vrai politicien calculateur. Et donc, je pense que ça a beaucoup changé. Et donc, les électeurs de Québec solidaire, il y en a de plus en plus qui, effectivement, est-ce qu'ils pourraient se retrouver dans les rangs du Parti conservateur? Mais on verra si le rêve d'Éric Duhaime va se réaliser aux prochaines élections.
Une des nombreuses choses à surveiller lors des prochaines élections. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. On se reparle demain.
Parfait, à demain.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
C'est mardi, alors on parle d'histoire.
Les actualités de l'histoire avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
Bonjour Dave Noël.
Bonjour Antoine.
Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au Devoir, auteur entre autres de Montcalm, général américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Alors parlons hockey, hein? C'est une vieille tradition au Québec. Le directeur général du Canadien vient d'être nommé, là, ça fait les manchettes. Et le gouvernement Legault surtout a un ministre responsable du retour des Nordiques. D'ailleurs Dave, écoutons-le tout de suite, c'est Éric Girard, le ministre des Finances, qui parlait, je crois que c'était le 25 novembre dernier.
Il y a plein de gens qui sont intéressés pour une équipe à Québec et je suis surpris de l'enthousiasme que ça génère. Écoutez, hier soir, j'essayais de relaxer et j'ai pas pu m'empêcher de voir tout un débat à TVA Sports sur le retour des Nordiques. Ça génère énormément d'intérêt. Il y a plein de gens qui sont intéressés à participer à ce projet.
Tu trouves qu'il y a peut-être des précédents dans l'histoire?
Oui, c'est ça, exactement. Jeudi dernier, donc, on apprenait que le ministre des Finances, Éric Girard, rencontrait virtuellement Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de hockey. Et rapidement, c'est ça, le surnom de ministre des Nordiques s'est imposé, a été accolé à Éric Girard. Mais donc, le gouvernement du Québec a déjà eu un ministre du Canadien. Donc, on remonte aux années 1920-1930. À l'époque, on est dans le gouvernement Taschereau. Et puis, on a un dénommé Athanase David,
ah oui?
qui est le grand-père de l'ancienne députée Françoise David
Mais
et
oui.
de l'actuelle députée libérale Hélène David.
C'est
et
ça.
Lui, à l'époque, il est donc secrétaire de la province de Québec.
Ça fait mal. À chaque fois que tu dis ça, là.
C'était le titre officiel donc, qui lui était accolé. C'est une sorte de ministre de la culture à l'époque, parce que le ministère de la culture n'existait pas.
Ouais.
Et tout ce qui relevait un peu de ces domaines-là, lui, était attribué. Par exemple, c'est lui qui a fondé les Archives nationales, il a fondé le Musée des beaux-arts. Donc, c'était vraiment comme un embryon de ministère de la culture, le secrétariat de la province de Québec. Lui, donc, il est ministre et en même temps, il est président du Canadien de Montréal entre 1921 et 1935.
Ah oui!
À l'époque, on avait des doubles mandats parfois un peu étranges.
Oui.
Ça, c'en était un.
Et puis, surtout à l'époque, Taschereau.
Oui.
C'était dingue. Je pense que le premier ministre lui-même siégeait à certains conseils d'administration.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qui aurait un peu retardé aussi la nationalisation d'hydroélectricité à l'époque. Et puis donc, lui, quand même, il s'est retrouvé président. C'est un peu un concours de circonstances. C'est qu'Athanase David, c'est un avocat, et c'était l'avocat de Léo Dandurand qui a fait l'acquisition de l'équipe en 1921. Et puis, ce qui était un retour de l'histoire intéressant, c'est que ce qui l'a amené là, c'est la grippe espagnole. Parce que le propriétaire précédent du Canadien est décédé de la grippe espagnole en 1921, donc des suites de la grippe.
Okay.
Et puis donc, c'est à ce moment-là que Léo Dandurand, avec des partenaires, a acheté l'équipe pour 11 000 $ Et puis, Athanase David était son avocat, donc il est devenu président de l'équipe à ce moment-là.
11 000 $
Oui, oui, une somme. Mais d'ailleurs, quand ils ont revendu l'équipe en 1935, ils ont fait un bon profit puisqu'ils l'ont revendu pour 165 000 $
Oh.
Donc, une bonne somme.
Oui.
Et puis, qu'Athanase David, en décembre 1921, c'est lui qui fait la mise au jeu officielle du premier match de la saison locale du Canadien, qui jouait à ce moment-là contre une équipe basée à Hamilton. La partie était disputée à l'Aréna Mont-Royal. Et puis, à l'époque, c'était un peu moins prestigieux qu'aujourd'hui. La Ligue ne comptait que 4 équipes.
Oui.
C'était avant l'expansion qui allait suivre. Et puis, un point intéressant, c'est que la mise au jeu, Athanase David l'a fait aux côtés du fameux Irénée Vautrin, qui va être...
pas les culottes à
oui,
Vautrin.
Oui, tout à fait, dans le futur ministre de la colonisation, qui va être ridiculisé par Duplessis pendant les comptes publics. Et dans la mémoire populaire, ça a été surtout... véhiculé par la série Duplessis, on a pu voir cet épisode-là circuler. En fait, c'était le ministre de la colonisation qui avait...
Il s'était fait payer des pantalons.
Oui, des pantalons, et puis ça s'est retrouvé dans les comptes publics, et donc ça avait contribué à la chute du gouvernement de Taschereau. Mais donc, revenons à Athanase David.
Ça tient à rien, au gouvernement.
À très peu de choses, oui, une paire de pantalons. Et puis, donc, c'est ça, Athanase David, à l'époque où il est président du Canadien, le Canadien compte uniquement des joueurs francophones, à part le dénommé Sprague Clegg Horn, qui est un joueur assez...
Scandinave ou...
Non, c'est un joueur anglophone un peu, comment dire, un peu rustre. Et puis, le Canadien, à l'époque, c'est pas une puissance, contrairement. On est avant la décennie de Maurice Richard.
Ah,
en
oui.
1921, quand Athanase David devient président du Canadien, l'équipe n'a seulement qu'une seule Coupe Stanley, celle de 1916. Ils auraient pu en gagner une deuxième en 1919. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, mais la grippe espagnole a décimé une partie de l'équipe. Et puis, c'est la seule saison qui avait été annulée jusqu'aux années plus récentes, quand il y a eu des grèves.
C'est un autre parallèle avec notre époque. Hein?
Tout à fait. Donc, en 1921, Athanase devient président. La Coupe Stanley suivante est remportée en 1924. Et d'ailleurs, il y a un grand banquet qui est organisé. Puis, dans les journaux, on voit des discours d'Athanase David qui porte un toast au roi d'Angleterre. Et puis, on se rappelle que donc c'est le secrétaire de la province de Québec, qui a un volet plus culturel. Et il rappelle que le sport permet de prolonger la vie et de maximiser son rendement intellectuel. Donc, il réussit à faire un lien avec ses fonctions.
Est-ce qu'il y avait une aide de l'État
Ça demeurait privé, mais lui, okay. Il avait les deux chapeaux.
Oui.
Et puis, en 1924, lors de cette Coupe Stanley-là, c'est le moment qui est assez célèbre chez les amateurs de sport. C'est le moment où la Coupe Stanley est perdue momentanément. au bas de la côte Saint-Antoine à Montréal, les joueurs sont en voiture, ils viennent de célébrer, et puis la voiture ne parvient pas à monter la côte, donc ils descendent tous. Il y en a un qui dépose la Coupe Stanley par terre et ils repartent chez Athanase David pour un autre banquet. Et puis, sur place, ils se rendent compte qu'ils ont oublié la coupe et ils retournent sur place la chercher. Et elle était toujours là, battue au grand vent, selon les comptes rendus de l'époque.
Elle se rappelle d'une anecdote célèbre, me donne envie d'écouter une petite chanson, Dave. Sous la présidence de David, est-ce qu'il va y avoir d'autres Coupes Stanley?
Oui, sous la présidence d'Athanase David, le Canadien va remporter deux autres Coupes en 1930 et en 1931. À ce moment-là, on est rendu à 4 Coupes Stanley pour les Canadiens sur les 24 qu'on va connaître au total.
Il est encore ministre? Il est encore secrétaire de la province?
Oui, tout à fait. C'est en 1935 que les propriétaires, Léo Dandurand, qui était vraiment le maître à bord de ce projet-là, il décide de vendre l'équipe. Il y a des rumeurs de déménagement. Les Canadiens auraient pu partir à Cleveland.
Oh.
Et finalement, l'équipe est rachetée par le Canadian Arena, qui est une société propriétaire des Maroons de Montréal,
okay.
Qui était l'équipe anglophone, parce qu'à l'époque, on avait des équipes par nationalité. On avait une équipe irlandaise avant ça, une équipe canadienne-française qui était le Canadien, le bleu-blanc-rouge.
Un peu comme nos commissions scolaires aujourd'hui. C'était linguistique.
Tout à fait. Les équipes étaient linguistiques. Et les Maroons, c'était l'équipe des anglophones. Et puis, 3 ans plus tard, cette équipe-là va disparaître. Et à ce moment-là, on peut vraiment dire que les deux équipes ont fusionné.
Ah oui.
Et par la suite, il y aura de plus en plus de joueurs anglophones dans le Canadien. Donc, c'est un point tournant.
Et Athanase David, que devient-il?
Oui, en 1935, l'équipe est vendue. Il perd ce chapeau-là. Et en 1936, il ne se représente pas aux élections. Et il va être élu, par contre, en 1939. Et Godbout, qui devient premier ministre en 1939, libéral, va lui offrir la présidence de l'Assemblée. Il va la refuser. Il considère que ce n'est pas prestigieux. Et puis, on le nomme sénateur à Ottawa. C'est là qu'il va terminer sa carrière. Il va être en poste jusqu'à sa mort.
Qui survient à quelle année, déjà?
En 1953.
Bien. Même année que Staline. excuse-moi. Donc, est-ce que les deux élus David dont tu as parlé tout à l'heure, Françoise David, Hélène David, ont déjà parlé de leur grand-père et du Canadien?
Oui, du moins, Françoise David en a parlé dans une entrevue. C'est un personnage qui est demeuré vivace dans la mémoire familiale, visiblement.
Oui. Puis Hélène David, quand elle était ministre de la Culture, j'imagine qu'elle se sentait comme une successeur de son illustre grand-père qui avait été secrétaire général de la province.
Ça devrait lui demander, oui.
Oui, exactement. Deuxième sujet maintenant, Dave, tu as un scoop du passé, une primeur du passé.
Oui, ça concerne le gouverneur Montmagny, qui a été caviardé par la loi d'accès à l'information. En fait, c'est un scoop de l'historien Gaston Deschênes, qui tient un blog... très intéressant. Gaston Deschênes, c'est un ancien bibliothécaire du Parlement, un historien. Et lui, il a voulu obtenir...
Un expert du Parlement.
Un expert du Parlement,
incroyable.
Oui, patrimoine notamment. Ouais. Et lui, il a voulu obtenir par accès à l'information un rapport de 1978 produit par la Direction générale du patrimoine du ministère de la Culture concernant le manoir de l'île aux Grues. L'île aux Grues, qui n'est pas très loin de Québec, une soixantaine de kilomètres. Sur cette île-là, on trouve un vieux manoir. Et lui, il voulait avoir des informations historiques sur un volet architectural très précis. Donc, il fait une demande d'accès à l'information pour obtenir ce rapport-là. Et puis, après 3 mois, on finit par lui envoyer. C'est toujours très long, quand on passe par l'accès à l'information, qui est une loi qui doit normalement nous permettre d'obtenir des documents.
Mais c'est la loi de non-accès à l'information.
Qu'on la qualifie souvent, oui. Les critiques de la loi aiment bien l'appeler comme ça.
Dont je fais partie.
Et donc, quand il a enfin reçu le rapport, à sa grande surprise, le document était caviardé de bout en bout. Caviardé, donc il y a des passages qui étaient surlignés à l'encre noire.
Mais voyons,
pour empêcher sa lecture.
Un document, quoi, du 17e siècle?
Non, c'est un rapport de 1978 qui est très, très peu controversé. Qui refait la chaîne de titres du manoir depuis la cession de l'île au complet à l'époque de la Nouvelle-France. Et on a vraiment caviardé tous les noms en évoquant 3 articles, dont un qui précise qu'un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la personne concernée. Montmagny, en l'occurrence, est décédé en 1657.
Difficile à rejoindre, Montmagny.
On comprend que c'est une application un peu aveugle de la loi. Montmagny, qui est-il? On peut en profiter pour faire un petit rappel. C'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France. On pense souvent que c'est Champlain.
Ben oui.
Et Champlain n'était que le vice-roi de la Nouvelle-France, que le lieutenant du vice-roi de la Nouvelle-France.
Bon.
Il n'était pas gouverneur. C'est Montmagny qui est le premier gouverneur. Il est en poste de 1636 à 1648. C'est lui qu'on va nommer d'abord Ononcio du côté des Autochtones. Ononcio qui signifie « grande montagne ». C'est un titre qui va rester après ça pour tous les gouverneurs de la Nouvelle-France qui vont se succéder.
Ononcio.
Jusqu'à Vaudreuil, oui. On le surnomme comme ça chez les peuples autochtones de l'époque.
Okay.
Et Montmagny, on le connaît surtout parce que quand Maisonneuve est arrivé dans la colonie, il a tenté de le convaincre de s'installer, non pas à Montréal, comme il le voulait, mais à l'île d'Orléans pour renforcer la colonie plutôt que de la disperser, alors que nous sommes en pleine guerre iroquoise. Donc, c'est surtout pour ça qu'on le connaît. Et puis, lui, on va lui...
Intéressant.
Montmagny, on va lui concéder...
On aurait pu avoir, le Canadien de Montréal, de l'île d'Orléans.
Oui, en supposant que la démographie aurait suivi. Et donc, en 1646, Montmagny obtient la seigneurie de la rivière du Sud, qui comprend l'île aux Grues. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à être mentionné dans ce rapport-là que Gaston Deschênes a tenté d'obtenir. Et ça, c'est une affaire donc, qui remonte à l'automne dernier. C'est récent, mais c'est quand même un exemple spectaculaire d'une faille de la loi d'accès qui en frustre plusieurs. Et d'ailleurs, dans son blog, Gaston Deschênes rappelait que les gouvernements d'autrefois en Nouvelle-France pouvaient décider arbitrairement si un document devait être rendu public, ou du moins dans la France d'Ancien Régime, et que là, on se retrouve avec ce genre de situation-là. Il trouvait ça assez désolant.
On n'a pas évolué depuis la Nouvelle-France en matière d'accès à l'information. C'est un peu déprimant. Et c'est sur cette note déprimante que se termine l'excellente chronique de Dave Noël. Merci infiniment, Dave.
Merci, Antoine.
C'était les actualités de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.